nous avons tout au long de cette année 2024 écouté des propos sur la justice de notre pays. Ils ont été, je crois, non seulement écoutés, mais entendus, ici, dans leur diversité et dans leur richesse. Nous avons échangé avec tous les communicants de cette justice, sur laquelle j'avais invité mes consoeurs et mes confrères, mais aussi un public très fidèle, que j'ai donc tenu à saluer tout à l'heure. Je les avais tous invités à porter un regard sur cette justice, souvent très critiquée, sans que parfois l'on sache vraiment pourquoi, et sans que l'on soit absolument certain que ceux qui profèrent ces critiques aient les connaissances suffisantes pour proférer des critiques aussi acerbes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes avec nous, qui avez accepté de revenir une année après l'invitation de Jean-Claude Trichet, alors que votre emploi du temps est celui d'un homme éminemment chargé, donc nous vous en remercions infiniment. Et ce n'est pas un mot creux. Vous avez accepté de revenir, non pas pour parler de bonne gouvernance, mais de votre juridiction. Car le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été vraiment conçu pour cela, est devenu une juridiction, la plus haute dans notre pays, mais c'est une juridiction. Vous la présidez depuis bientôt 9 années et vous savez tout sur elle. Alors qu'elle est de plus en plus saisie, notamment par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité, vous avez contribué à la rendre plus réactive, plus effective, plus efficace, toujours plus présente, plus ouverte aussi, beaucoup plus connue et mieux connue. Et c'est une bonne chose. Vous connaissez certaines des critiques dont le Conseil fait l'objet. Il en est que je qualifierais de classiques, venant des partis politiques, de préférence lorsqu'ils sont dans l'opposition, mais qui changent souvent de point de vue lorsqu'ils ne sont plus dans l'opposition. D'autres viennent d'universitaires, attentifs, extrêmement vigilants, s'agissant notamment des conditions de désignation des membres du Conseil, de la motivation de vos décisions. Certaines sont excessives, d'autres méritent sans nul doute qu'on les examine. Et peut-être accepterez-vous, dans votre propos ou lors des questions qui vous seront posées, d'y répondre. Vous avez tout récemment, début octobre 2024, peut-être lors de la nuit du droit ou en tout cas à peu près à cette époque-là, fait de fortes importantes et utiles mises au point sur ce que doit être, dans un pays comme le nôtre, et je dirais même ailleurs, l'état de droit. Bref, il est important pour nous de savoir comment vous voyez l'avenir de cette juridiction qui occupe une place unique dans notre paysage politique, juridique et judiciaire. Personne ne peut le faire mieux que vous, qui êtes presque au terme de ces 9 années de présence et de travail. Donc, une nouvelle fois, merci d'avoir distrait de votre temps un long moment pour notre Académie. Et nous allons, si vous le voulez bien, vous écouter avec infiniment d'intérêt. Si vous souhaitez parler debout, vous êtes debout. Si vous préfériez parler assis, vous parlez assis, c'est vous qui décidez. Nous vous écoutons. Merci.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, pour la 2e année consécutive, j'ai l'honneur et le plaisir de répondre à l'invitation de votre Assemblée. L'an dernier, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avions évoqué ensemble le thème de la gouvernance. Aujourd'hui, je vais me consacrer au Conseil constitutionnel, avec gratitude pour la générosité de votre nouvelle invitation, mais aussi avec une certaine inquiétude de finir par vous lasser. Mesdames et messieurs, le 8 mars 2016, j'ai accédé à la présidence du Conseil constitutionnel que je quitterai le 7 mars prochain à minuit, une institution dont le rôle dans notre République est décisif, les pouvoirs étendus et la nature juridictionnelle affirmée. Il n'en a pas toujours été ainsi. Ce qui aujourd'hui peut paraître relever de l'évidence résulte en effet de plusieurs avancées successives que je rappellerai en quelques mots. Avant d'aborder plus longuement le thème central de mon propos, le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Dans l'esprit des concepteurs de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel n'était pas une juridiction. Sa dénomination, Conseil et non Cour, traduisait cette réserve. Sa vocation première consistait, parlons clair, à contrer les éventuels empiétements du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Ni l'identité des personnalités alors choisies pour y siéger, ni leur charge de travail de l'époque, ne faisaient courir à l'institution et à ses membres un risque élevé de mutinerie ou de surmenage. Le Conseil, alors exclusivement masculin, était qualifié aimablement de chien de garde de l'exécutif. Et pourtant, je me souviens qu'un de mes excellents professeurs de droit, Jean Rivero, avait employé en introduction d'un de ses cours cette formule prémonitoire qui avait frappé l'étudiant souvent inattentif que j'étais. Je le cite. « À la différence des satellites, disait-il, les institutions demeurent rarement sur l'orbite où leur créateur a entendu les placer. » Fin de citation. Cette observation s'applique parfaitement au Conseil constitutionnel, dont le changement d'orbite par rapport à ses débuts, positif pour nos libertés et pour le droit, s'est déroulé en trois étapes principales. La première a consisté en une évolution, voire une révolution juridique, décidée par le Conseil constitutionnel lui-même, le 16 juillet 1971, par sa décision fameuse auprès des juristes « Liberté d'association », le Conseil se déclare compétent pour censurer une disposition législative qui méconnaîtrait non seulement le texte de la Constitution, mais en visant également son préambule, un principe contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946, ces textes formant avec ultérieurement la Charte de l'environnement le bloc de constitutionnalité. La décision de 1971 ouvre la voie à un contrôle large de la constitutionnalité des lois. Elle marque le début de la transformation du Conseil en une véritable cour constitutionnelle, ce qu'il est devenu aujourd'hui, même s'il n'en a toujours pas reçu le nom. La deuxième étape date de 1974. Alors que depuis sa naissance, le Conseil ne pouvait être saisi que par les quatre plus hautes autorités de l'État, président de la République, Premier ministre, président du Sénat et de l'Assemblée nationale, la révision constitutionnelle de 1974, à l'initiative du président Giscard d'Estaing, ouvre ce droit à 60 députés ou 60 sénateurs. L'opposition parlementaire devient ainsi habilitée à contester par saisine dite a priori la constitutionnalité des lois votées, mais non encore promulguées. Le nombre des lois déférées au Conseil augmente. L'étape la plus récente émane, là encore, du constituant. En 2008 est introduite, après un long cheminement, la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Cette procédure permet à tout justiciable, et non à quelques personnalités seulement, de mettre en cause, à l'occasion d'un litige, la conformité de toute disposition législative existante avec les droits et libertés que la Constitution garantit. C'est le nouvel article 61-1 de la Constitution. Avec celle que j'aime appeler la question citoyenne, le prétoire du Conseil s'ouvre largement. Après un filtrage opéré par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, pour éviter les recours dépourvus de caractère sérieux. Cette compétence nouvelle du Conseil, le contrôle a posteriori des lois qu'elle permet, marque une étape décisive dans la juridictionnalisation de l'institution. Depuis 2010, date d'entrée en vigueur de la QPC, le Conseil d'État et la Cour de cassation, avec lesquels nos relations sont confiantes et respectueuses, ont renvoyé à notre examen plus de 1100 QPC qui, malgré un tassement récent, constituent désormais environ 80% de notre activité. Les statistiques montrent que dans un tiers des cas, ce qui est considérable, nous avons prononcé des décisions de non-conformité, partielles ou totales, annulant ainsi les dispositions législatives contestées. Les attributions du Conseil sont nombreuses. Elles sont définies par le titre 7 de notre Constitution. Si celle de juge de la conformité des lois à la Constitution et de juge des élections présidentielles, législatives et sénatoriales sont bien connues, le Conseil est également saisi automatiquement de toutes les lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires. Il lui revient aussi, en application du fameux article 16, d'être officiellement consulté sur les mesures exigées par des circonstances exceptionnelles. En cas de référendum législatif, il juge des actes préparatoires du référendum, veille à la régularité des opérations et en proclame les résultats. De même, il intervient dans le cadre de la procédure du référendum d'initiative partagée, initial RIP. Moins connu, il revient au Conseil, par la voie dite du déclassement, de dire sur saisine du gouvernement si des dispositions législatives sont intervenues dans le domaine réglementaire et d'autoriser en ce cas leur modification par décret, ce qu'il a eu à décider plus de 300 fois. Le Conseil prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle après son élection, ce qu'il a fait à 28 reprises, et il statue sur les incompatibilités parlementaires en prononçant, si nécessaire, la démission d'office de l'élu. Il a été saisi à ce titre 41 fois. Enfin, le Conseil constitutionnel est juge d'appel des comptes de campagne des candidats aux élections nationales. Pour remplir ses obligations multiples, le Conseil s'appuie sur le collège de ses 9 membres et sur des collaborateurs. Comment ne citerai-je pas, parmi les personnalités nommées successivement au Conseil, les noms de Georges Pompidou, René Cassin, Georges Vedel, Robert Badinter ou Simone Veil. C'est à la fois le champ de compétences du Conseil, la qualité de ses membres et le contenu de ses décisions qui ont fait du Conseil constitutionnel l'institution majeure qu'il est devenu. Pour autant, les moyens dont il dispose, tous services confondus, sont assez modestes. 85 équivalents temps plein, avec un budget annuel moyen de 14 millions d'euros, y compris les dotations spéciales pour le contrôle des élections ou des RIP. Moyen significativement inférieur à beaucoup de nos homologues étrangers. Je n'ose même pas leur en parler. Le rôle du Conseil se lit surtout, évidemment, à travers sa jurisprudence et les grandes décisions qu'il a prises. Ce corpus a été construit, au moment où je m'exprime, par 4440 décisions dans le champ du contentieux électoral, 1865 au titre du contrôle de constitutionnalité des lois et 575 dans ses autres champs de compétences. Ce corpus est un bien commun puisqu'il est ce qui rend pleinement vivant le patrimoine constitutionnel français. Pendant le mandat de son premier président, au début des années 60, le Conseil a jugé au total moins de 30 affaires. Pendant mon mandat, il en aura jugé près de 700. Y compris dans un contexte de crise, comme la Covid-19, le Conseil a rendu ces dernières années des décisions nombreuses et importantes en respectant toujours les délais très courts qui lui sont impartis, 3 mois, 1 mois, 8 jours, selon les cas. Contrôlant les lois dont il est saisi a priori ou a posteriori, Le Conseil a ainsi veillé, et il veille, au respect de grands principes. J'en cite quelques-uns. Égalité, laïcité, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté d'entreprise, droit de grève, droit de propriété, respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, droit de mener une vie familiale normale, présomption d'innocence, droit de la défense, spécificité de la justice pénale des mineurs, libre administration des collectivités territoriales, ainsi que plusieurs autres principes constitutionnels. Je souligne enfin deux aspects déterminants. D'une part, lorsqu'il exerce un contrôle de constitutionnalité, le Conseil juge des lois et non des personnes. D'autre part, en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mesdames et messieurs, dès les premières semaines après ma nomination, j'ai souhaité consulter plusieurs personnalités du monde juridique. Anciens membres du Conseil, magistrats, avocats, professeurs de droit, afin d'acquérir une vue aussi pertinente que possible de ce qui pouvait encore être amélioré. J'en ai tiré la conclusion que le Conseil, pendant la durée de mon mandat, devrait s'efforcer de progresser dans trois directions principales. La consolidation du droit, la modernisation de ses méthodes et son ouverture tant nationale qu'internationale. C'est cette trilogie, consolider, moderniser, ouvrir, qui nous a guidés avec mes collègues pendant ces bientôt 9 années et ce triple examen auquel je voudrais procéder maintenant. La consolidation du droit s'est traduite par les décisions que le Conseil était amené à prendre dans des domaines extrêmement divers. Parmi les plus importantes de ces dernières années, je citerai la valeur constitutionnelle du principe de fraternité en 2018, les modalités d'une lutte contre la haine en ligne respectueuse de la liberté d'expression et de communication 2018, les limites constitutionnelles de l'état d'urgence sanitaire en 2020, les conditions d'utilisation d'algorithmes par l'administration en 2020, la portée de la notion d'identité constitutionnelle de la France 2021, le champ d'application du référendum d'initiative partagée 2022, la protection constitutionnelle des générations futures dans le domaine de l'environnement 2023, la protection de la dignité des conditions de garde à vue 2023, l'accès des étrangers en situation régulière aux prestations sociales 2024. On s'étonnerait sans doute, et à juste titre, si dans cette liste je ne mentionnais pas les décisions qui récemment ont entraîné le plus de réactions. La décision du 14 avril 2023 concernant le recul de l'âge légal de la retraite et celle, au pluriel, du 25 janvier 2024 et du 11 avril 2024 relative aux questions d'immigration. Elles illustrent, selon moi, une tendance de l'opinion à apprécier souvent nos décisions moins sur des critères juridiques que politiques. Concernant la réforme des retraites, le Conseil a eu à prendre 3 décisions. 2 concernant des propositions de RIP qui ont été jugées irrecevables, la 3e visant la loi elle-même, reculant à 64 ans l'âge légal de départ en retraite, que le Conseil a validé, à l'exception de quelques dispositions dites cavaliers sociaux. Était d'abord critiquée la procédure suivie pour l'adoption de cette loi, en particulier le recours à une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, pour procéder à une réforme des retraites. Selon les requérants, il s'agissait d'un détournement de procédure dans le seul but de permettre au gouvernement de bénéficier de conditions d'examen accélérées, alors qu'une réforme de cette nature aurait dû, soutenait-il, être examinée selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil a estimé que si ces dispositions auraient pu effectivement figurer dans une loi ordinaire, le choix du gouvernement de les faire figurer au sein d'une loi de financement rectificative ne méconnaissait en lui-même aucune exigence constitutionnelle. Une autre critique concernait la clarté et la sincérité des débats parlementaires. Le Conseil a jugé, et c'était le point le plus délicat, que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution et par le règlement des assemblées aient été utilisées cumulativement pour accélérer l'examen de la loi n'était pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l'ensemble de la procédure législative. En filigrane, la question posée était celle des possibilités et des limites de ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé et que d'aucuns estiment plutôt être le parlementarisme corseté. Le Conseil n'a pas retenu cette argumentation. S'agissant de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le Conseil, par une décision du 25 janvier 2024, a partiellement ou totalement jugé conforme à la Constitution 10 des articles qui lui étaient déférés. Mais la partie la plus commentée de sa décision a été celle censurant comme cavalier législatif, c'est-à-dire pour des motifs de procédure, 32 des 86 articles de cette loi. Le Conseil, confirmant sur ce point sa jurisprudence traditionnelle, ne s'est donc pas prononcé sur le fond des dispositions visées qui pourront faire l'objet d'un nouvel examen si elles sont de nouveau adoptées et déférées. Une partie des commentaires s'est montrée critique. J'ai dû moi-même intervenir publiquement pour rappeler la continuité de notre jurisprudence et les termes de la Constitution. J'ai souligné que si des formes de préférence nationale peuvent être prévues par le législateur, la préférence nationale systématique, je souligne le terme systématique, n'est, elle, pas permise par la Constitution. J'ai aussi relevé que cet état du droit ne saurait être modifié par la voie d'un référendum direct de l'article 11, mais seulement par la voie de l'article 89 de la Constitution, consacré expressément à la révision de celle-ci. En clair, il ne peut y avoir de révision de notre Constitution sans un accord préalable des deux assemblées parlementaires. La confusion que je mentionnais il y a un instant entre droit et politique peut aboutir d'ailleurs à une situation assez paradoxale. En 2023, à la suite de sa décision sur l'âge de la retraite, le Conseil a été critiqué comme penchant, osons le mot, à droite. Mais début 2024, c'est-à-dire peu de mois plus tard, à la suite de ses décisions immigration, le même Conseil, composé exactement du même collège, était critiqué cette fois comme penchant indubitablement à gauche. On peut admettre que sur des sujets aussi délicats, la frontière entre analyse juridique et sensibilité politique n'est pas toujours aisée. On peut estimer cette situation difficilement évitable, nos concitoyens n'étant pas tous des spécialistes de droit. On peut aussi constater que la nature des saisines parlementaires contribue à cette confusion. Elles se répartissent en effet de plus en plus en deux catégories, celles qui visent à trancher clairement un point de droit et celles qui tendent à prolonger sur le terrain juridique un débat mené sur le plan politique. Tout cela est exact, mais n'enlève rien à la nécessité de progresser encore pour renforcer l'autorité du Conseil et l'adhésion à ses décisions. Cela montre aussi le travail d'éducation et d'information qui reste à mener, malgré les progrès déjà accomplis, pour faire mieux comprendre l'office du Conseil constitutionnel, résumé excellemment par mon prédécesseur et ami Robert Badinter. Je le cite. Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. Fin de citation. Remarque importante, au sein du Collège, il peut advenir que nous divergions sur les réponses aux saisines dont nous sommes l'objet. Il peut arriver, quoique rarement, que le président doive faire procéder à un vote Mais toutes nos décisions juridictionnelles, je le souligne, sont prises par la collégialité des membres. Cette notion de collégialité apparaît d'autant plus centrale que pendant 9 années, les membres du collège vivent largement ensemble pour remplir leur office. Concrètement, chacune et chacun de mes collègues occupe un bureau au même étage du Palais Royal. Les échanges entre eux sont permanents et, pour l'anecdote, chacun de nos délibérés, en général le jeudi, est accompagné d'un déjeuner lui aussi collégial. Une acrimonie systématique ou une insociabilité caractérisée sont donc à éviter. Oui, le Conseil constitutionnel est une institution collégiale. Mesdames, Messieurs, outre la consolidation de notre droit, j'ai évoqué parmi les 3 priorités du mandat qui s'achève la modernisation des méthodes de jugement et de travail du Conseil, ainsi que le renforcement de son ouverture nationale et internationale. Nous avons en effet procédé à une modernisation assez significative de nos méthodes de jugement. Cette modernisation a pris plusieurs formes. Par exemple, la simplification et la clarification, autant qu'il est possible, de l'écriture de nos décisions. Le remplacement de l'historique considérant par la rédaction en paragraphe. La disparition des mystérieuses portes étroites, remplacées avantageusement par des contributions extérieures, désormais publiques. Ou bien encore l'instauration, afin que le collège soit parfaitement éclairé, d'un dialogue entre ses membres et les parties au cours de l'audience publique hebdomadaire que nous tenons généralement le mardi et qui est diffusée sur Internet. Comme il en existait déjà un pour les QPC, le Conseil s'est également doté d'un règlement intérieur de procédure concernant le contrôle a priori de la constitutionnalité des lois qui s'applique depuis 2022, améliorant ainsi les conditions du débat contradictoire à travers notamment l'audition de parlementaires auteurs d'une saisine. Une transformation profonde de nos outils numériques a été accomplie au service du travail juridictionnel du Conseil, avec le déploiement d'un site Internet QPC 360, la refonte des outils de gestion de nos décisions et l'établissement tout récent d'un schéma stratégique d'intelligence artificielle. Dans cette modernisation, les conditions de travail des personnels ont été améliorées, cependant qu'était menée à bien une refonte de nos locaux pour faciliter leur ouverture au public et aux partenaires du Conseil, avec notamment diverses dispositions favorables à la sécurité et à l'environnement. Le Conseil a aussi choisi de s'ouvrir davantage au plan national et international. Le cœur de notre mission, c'est bien sûr de rendre la justice constitutionnelle. Mais le Conseil ne doit pas s'isoler pour autant dans une sorte de tour d'ivoire juridique. Cela impliquait notamment que le Conseil renforçât la pédagogie sur sa propre activité, rendant celle-ci plus accessible aux spécialistes comme au plus grand nombre. C'est ce que nous avons décidé de faire, par exemple, en publiant désormais, comme le font beaucoup d'autres institutions, un rapport annuel d'activité tous les 30 octobre, jour anniversaire de la Constitution, ou en organisant périodiquement, et ceci est radicalement nouveau, en région, des audiences publiques du Conseil constitutionnel consacrées à l'examen des QPC. 11 déplacements de ce type se sont déroulés depuis 2019, relayés par la presse régionale et très appréciés par nos hôtes locaux. L'esprit d'ouverture impliquait aussi de nous adresser davantage aux spécialistes. C'est l'objet, par exemple, de la remise annuelle par le Conseil d'un prix de thèse, de la création de notre revue semestrielle titre 7, ou encore de la création récente d'un comité d'histoire du Conseil constitutionnel. Même volonté d'ouverture envers les élèves et les étudiants, d'où le lancement d'un partenariat entre le Conseil et l'Éducation nationale depuis 2016. Les élèves des écoles et des collèges peuvent participer au concours national « Découvrons notre Constitution ». Le Conseil accueille désormais régulièrement des rencontres, des débats. Depuis 2017, nous réunissons rue de Montpensier chaque année une nuit du droit sur de grands sujets juridiques. L'initiative a gagné toute la France, y compris, et je les en félicite, nos académies, En 2024, la Nuit du droit a rassemblé plus de 220 manifestations. La même volonté d'ouverture nous a conduit à prendre d'autres initiatives, parmi lesquelles la réalisation d'un documentaire télévisé, d'une bande dessinée, ou encore l'ouverture d'une boutique dédiée au Conseil. L'ouverture internationale du Conseil avait été engagée par certains de mes prédécesseurs. Une nouvelle étape a été franchie avec deux objectifs. Mieux connaître l'activité des autres cours, rayonner davantage à l'étranger. Certes, le Conseil est juge de la constitutionnalité des lois et non de leur conventionnalité, c'est-à-dire de leur conformité avec les normes internationales, laquelle relève du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Cette répartition soulève certaines questions que, si vous le souhaitez, j'aborderai dans les échanges postérieurs à mon propos, mais elle n'exclut nullement, bien au contraire, de multiples contacts internationaux. Avec nos homologues, nous avons créé des solidarités de travail croissantes. Nous avons développé particulièrement nos relations avec la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, renforcé nos échanges avec les cours latines d'Italie, d'Espagne et du Portugal, approfondi le dialogue européen des juges avec les cours de Luxembourg et de Strasbourg. Nous assurons le secrétariat général de l'Association des cours constitutionnels francophones. Notre indépendance de décision n'en souffre nullement, mais notre analyse des problèmes et des solutions en tire certainement profit. Dans un monde où la plupart des grandes questions sont internationales, interdisciplinaires et intergénérationnelles, mieux connaître les approches de nos partenaires et réciproquement est nécessaire, sans jamais oublier, comme je l'avais déjà mesuré lorsque je dirigeais notre diplomatie, que le droit français est un élément important du rayonnement de la France. Mesdames, Messieurs, les actions et mérites du Conseil constitutionnel n'empêchent pas de réfléchir à telle ou telle évolution possible que je voudrais maintenant aborder. Des réflexions nombreuses sont menées sur ce sujet, qui émanent en général soit de formations politiques, soit de la doctrine, qui joue un rôle utile, y compris s'il est parfois critique. Certains imaginent et souhaiteraient un système juridique d'ensemble radicalement différent de l'actuel. Le Conseil constitutionnel cumulerait, en plus de ses fonctions présentes, les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Une telle révolution, qui bouleverserait un système éprouvé, tout en laissant d'ailleurs sans solution de multiples questions, nous rapprocherait dans une certaine mesure de la Cour suprême américaine, laquelle n'apparaît pas nécessairement aujourd'hui comme le modèle. Je résumerai mon appréciation sur cette perspective par une formule brève dont j'espère vous excuserez la trivialité. Il ne faut pas prendre toutes les bouches qui volent pour des idées. D'autres pistes retiennent, elles, le cadre général actuel, mais s'inspirant souvent d'exemples étrangers, suggèrent des modifications de portée diverse. Les plus nombreuses sont relatives au mode de désignation des membres du Conseil. Il est exact que sur ce point, le système français est particulier et qu'en confiant cette responsabilité à trois hautes personnalités politiques, sans leur fixer aucun critère de choix, il peut exposer la composition du Conseil aux reproches de manque d'indépendance. D'autres solutions existent, confiant souvent ce rôle au Parlement ou à des autorités juridiques. Par exemple, il a été proposé en ce sens de compléter les 9 membres du collège actuel par 3 membres désignés, eux, par le vice-président du Conseil d'État et par les premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Mon expérience des diverses situations à travers le monde me conduit à penser qu'aucune formule n'est en réalité parfaite, et en particulier que n'a rien d'évident la thèse pourtant fréquente d'une non-politisation qui serait obtenue à coup sûr par une désignation parlementaire. Il demeure que des pistes sont sans doute envisageables concernant la désignation des membres. J'y reviendrai dans un court instant. Plusieurs propositions de réforme portent sur la qualification des membres. En règle quasi générale, à l'étranger, des conditions de compétences juridiques sont requises. Par exemple, en Allemagne, les candidats à un poste de juge constitutionnel, qui doivent être âgés de plus de 40 ans, doivent avoir réussi les deux examens d'État qui sanctionnent les études juridiques et posséder les qualifications requises pour pouvoir exercer les fonctions de juge. En outre, au moins 3 membres de chacun des 2 Sénats qui composent la Cour de Karlsruhe doivent provenir des cours suprêmes et avoir siégé au moins 3 ans. En France, je l'ai dit, les textes n'exigent pas de compétences spécifiques. Le fonctionnement interne du Conseil, ses pratiques, font aussi l'objet de diverses réflexions. Selon les uns, la brièveté des délais impartis au Conseil pour statuer serait un handicap à supprimer. Cette brièveté constitue, à mon sens, plutôt un atout, même si elle est contraignante quant aux méthodes et à la charge du travail du Conseil. Selon certains, le rôle du secrétariat général et du service juridique dans les décisions du Conseil serait excessif. Mieux vaudrait, comme dans d'autres cours supérieurs, que chaque membre soit assisté par 2 ou 3 référendaires de son choix. S'il est exact que les collaborateurs du Conseil sont très compétents et heureux qu'ils aident les membres dans la préparation des décisions, je confirme ici que ce sont bien ces derniers, les membres, et eux seuls, qui décident après un délibéré qui constitue le cœur de chaque décision. Un autre sujet de réflexion concerne, à propos de nos décisions, la pratique ou l'absence de ce qu'on appelle les opinions dissidentes ou opinions séparées. Dans plusieurs autres cours constitutionnelles, la pratique est que, pour des affaires délicates, un ou plusieurs membres du collège non seulement puissent opiner différemment de la majorité, ce qui est bien sûr toujours possible, mais que soit publiée leur opinion motivée d'une façon expresse et précise. L'argument est que cette pratique permettrait de montrer que la diversité des solutions possibles a bien été examinée, ce qui conforterait l'autorité des décisions prises. Une telle approche possède ses mérites. Elle n'est cependant pas retenue par le Conseil constitutionnel pour au moins 3 raisons. L'adopter interdirait de respecter nos délais brefs de jugement. L'autorité de nos décisions m'apparaît plutôt renforcée qu'affaiblie par la cohésion externe qui les accompagne. Enfin, le secret de nos délibérés, qui caractérise d'ailleurs tout notre système juridictionnel et que nous prêtons serment de respecter lors de notre entrée en fonction, me paraît constituer une importante garantie d'indépendance pour chaque juge. C'est donc seulement après 25 années que les archives de nos travaux seront ouvertes, ce qui constitue d'ailleurs une disposition exceptionnelle pour une juridiction. D'autres thèmes suscitent également la réflexion. La durée du mandat des juges varie selon les cours constitutionnelles, allant parfois jusqu'à une nomination à vie. Cette dernière formule ne me semble pas souhaitable. Les 9 années du mécanisme français non renouvelable me paraissant mieux adaptée. La question de l'effet utile de nos décisions se pose également et elle est fréquemment soulevée par les avocats. Le Conseil est conscient de cette difficulté, il y est attentif et il a récemment affiné sa jurisprudence en ce sens. Je relève enfin que le président ou la présidente de notre Conseil est choisi par le président de la République, alors que dans d'autres systèmes, il ou elle est élu par ses collègues ou désigné à l'ancienneté. Le système français peut bien sûr être discuté. Il évite en tout cas les campagnes électorales internes qui ne me paraissent pas constituer la priorité absolue de ce type d'institution. On le voit, de multiples pistes sont avancées concernant l'avenir du Conseil constitutionnel. Encore n'en ai-je cité que quelques-unes. À l'expérience, et en tirant des leçons du panorama international que j'ai eu l'occasion de fréquenter, 4 pistes pourraient être, selon moi, examinées en me concentrant sur ce qui concerne les membres du Conseil afin de consolider leur rôle de sage au service du droit. J'emploie à dessein l'expression « piste examinée » car je ne voudrais en aucun cas donner le sentiment ni d'une critique rétrospective de ma part qui serait indélicate ni d'un catalogue magique pour le futur qui serait absolument illusoire. Une première piste est la suppression de la catégorie des membres de droit du Conseil constitutionnel, à savoir les anciens présidents de la République. Il est vrai que l'étrange disposition du deuxième alinéa de l'article 56 n'a été introduite à l'origine que parce que ceux-ci ne bénéficiaient pas à l'époque d'une pension de retraite et qu'on estimait qu'un siège de droit au Conseil constitutionnel pouvait financièrement combler cette lacune. Signe sans doute de la considération qu'à l'époque on portait sur au rôle du Conseil et à ses membres. Le statut financier des anciens présidents de la République a été heureusement revu à la hausse et le Conseil de 2025 n'est plus celui du début des années 60. Avec le soutien du Collège, j'ai donc plaidé publiquement depuis plusieurs années, sans aucun succès, pour qu'une prochaine révision de la Constitution abandonne cette caractéristique que le Conseil ne partage qu'avec quelques cours exotiques. Je note cependant que les anciens présidents actuellement concernés se sont très sagement appliqués à eux-mêmes et sans texte cette modification qui fait l'objet d'un consensus. Une deuxième piste pourrait être d'instituer pour les personnalités nommées au Conseil, dont il me paraît salutaire qu'elles aient suivi des parcours diversifiés, l'exigence de disposer d'une expérience juridique solide. Cette piste peut se réclamer notamment de la convergence en ce sens des cours constitutionnels de la plupart des démocraties avancées. Les critères varient d'une constitution à l'autre, depuis une simple formulation générique de compétences juridiques jusqu'à l'explicitation très fine d'un nombre précis requis d'années d'études ou d'exercice du droit. La consécration de cette exigence, fût-elle en termes très généraux, renforcerait sans doute l'efficacité du mécanisme des auditions parlementaires des personnalités pressenties instituées par la révision constitutionnelle de 2008. Le bouleversement induit par la QPC sur le rôle du Conseil constitutionnel plaiderait en ce sens. Une troisième piste consisterait dans l'exigence pour les personnalités appartenant à l'exécutif ou au Parlement de respecter un certain délai de viduité, par exemple 3 années, avant de pouvoir être nommé au Conseil. Ce délai pourrait aider au traitement de questions récurrentes de déport ou de récusation concernant à la fois les ministres et les parlementaires, sans tout résoudre. Il montrerait d'une façon claire qu'il ne faut pas, s'agissant du Conseil, confondre la politique et le droit. Je répète que pour toutes ces pistes, je me place sur un plan général et pour le futur. Quatrième piste, veiller sinon à une parité absolue femmes-hommes dans un collège de 9 membres, en tout cas à augmenter le nombre des femmes membres du Conseil. Depuis sa création, en effet, sur 88 personnalités, y compris les anciens présidents de la République ayant siégé au Conseil, on compte seulement 12 femmes, dont aujourd'hui 3 sur 9. S'il y a eu depuis quelques années une amélioration heureuse, il existe encore une marge de progression, d'autant plus que, comme on le sait, la France compte de nombreuses et très éminentes juristes. Au total, on aura compris que, selon moi, dans le choix des membres du Conseil, doivent primer la compétence, l'expérience et l'indépendance. Ces 4 pistes, si on veut les formaliser, impliqueraient l'adoption ou la modification de plusieurs textes. Il serait cependant tout à fait possible que les autorités de nomination décident de les appliquer sans texte et spontanément. Mesdames et messieurs, les étapes qu'a connues le Conseil constitutionnel depuis maintenant 66 ans, sa jurisprudence, la modernisation et l'ouverture auxquelles il a été procédé ont fait du Conseil l'institution majeure qu'il est devenu aujourd'hui. Il veille non seulement à ce que les lois nouvelles soient conformes au texte de notre Constitution, mais à ce que toutes les lois lui soient conformes, ainsi qu'aux grands principes qui s'en dégagent. Je n'ignore pas pour autant qu'un mouvement existe dans plusieurs pays, dont le nôtre, qui, pour diverses raisons, porte des critiques contre les juges constitutionnels, ces juges qui, nous dit-on, décideraient à la place du peuple et contre la Constitution. Je souhaite qu'on réfléchisse bien à ce qu'est le constitutionnalisme et la Constitution. Le constitutionnalisme s'est imposé sur notre continent après la Seconde Guerre mondiale et à l'est du continent après la chute du mur de Berlin, en réponse aux tragédies qu'avaient engendrées des totalitarismes dont certains avaient accédé au pouvoir par le jeu démocratique ordinaire. Pour faire barrage au retour de ces dérives désastreuses, nos pères ont alors conçu l'exigence d'un modèle démocratique avancé qui intègre un mécanisme solide protégeant l'essentiel, à savoir les droits et les libertés fondamentales, en commençant par la dignité de la personne humaine. C'est ainsi qu'il a été admis dans nos constitutions que si la loi est l'expression de la volonté générale, elle doit elle-même respecter la Constitution. Ce corps de principes et de règles qui étymologiquement nous tiennent ensemble et qui sont au cœur de nos sociétés démocratiques. Pour autant, jamais les promoteurs du constitutionnalisme n'ont entendu empiéter sur les compétences des législateurs. Et le constitutionnalisme ne vaut que par la conscience qu'ont les juges constitutionnels des limites de leur rôle qui, ainsi que nous le rappelons souvent dans nos décisions, n'est pas de substituer notre appréciation à celle du législateur, mais seulement de nous assurer que la loi ne méconnaît pas la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution. Pour finir, j'évoquerai l'élection américaine récente. Dans ce grand pays, qui a longtemps servi de modèle à nos démocraties et dont nous n'oublions pas qu'il a permis jadis à notre nation de redevenir libre, voici qu'on chercherait désormais en vain les limites juridiques au pouvoir du futur président et donc la garantie du principe fondamental dans un état de droit de la séparation des pouvoirs. Qui peut dire avec certitude que cette situation ne pourrait en aucun cas advenir en France? À ceci près que le Conseil constitutionnel est là, qui veille au respect de notre Constitution et de l'état de droit. Cela me paraît essentiel pour notre démocratie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à ceux qui se sont manifestés pour poser des questions, je voudrais, et j'aurais dû le faire plus tôt, saluer la présence constante parmi nous de Pierre Mazeaud et de Renaud Denoy de Saint-Marc. Pierre Mazeaud qui a présidé le Conseil constitutionnel, qui est sur ma gauche, et Renaud Denoy de Saint-Marc qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui est en face de moi, tout près du président Fabius. Donc, c'est à noter que l'Académie des sciences morales et politiques compte parmi ses membres deux anciens membres du Conseil constitutionnel à des périodes antérieures, donc, mais c'est important. Et la seconde observation consiste simplement à constater, en vous écoutant, qu'en se juridictionnalisant, le Conseil constitutionnel s'est vu à son tour soumis à un certain nombre de critiques différentes de celles qui émanaient naguère des partis politiques d'opposition selon que, etc. Et sur ce plan-là, il se retrouve assez proche des juridictions de l'ordre judiciaire qui connaissent ces critiques depuis bien longtemps et depuis quelque temps des juridictions de l'ordre administratif qui n'en sont pas épargnées. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de propos triviaux, les miens vont l'être encore plus que les vôtres, je dirais presque bienvenue au club. Bienvenue au club, mais en même temps, exigence pour nous tous d'être compris. et de trouver les moyens de faire comprendre nos décisions, les conditions dans lesquelles elles sont formées, les conditions dans lesquelles elles sont reçues. Je donne simplement un exemple. Le hasard fait que lorsque je présidais la chambre criminelle de la Cour de cassation, il y a maintenant de nombreuses années, puisque je l'ai présidée de 2000 à 2008, nous avons un jour accueilli à notre audience 4 professeurs de droit. Et dans une notion extensive du secret partagé, nous les avons admis au délibéré de la section de la chambre criminelle qui siégeait ce jour-là. Et à la fin de l'audience, les professeurs de droit nous ont dit « Nous ne serons pas toujours d'accord avec vous, mais plus jamais nous n'écrirons nos chroniques, nos critiques, nos commentaires d'arrêt de la même manière, car nous avons vu comment vous travaillez. » Nous avons vu comment vous échangiez. Nous avons vu comment l'avis du dernier des conseillers référendaires nommés pouvait parfois remettre en cause tout un délibéré de hiérarques qui était pourtant là depuis bien plus longtemps qu'eux, mais qui n'avait pas le même âge et qui, du coup, n'avait pas tout à fait le même regard qu'eux sur la question juridique posée et ses implications. Donc, toutes ces notions d'ouverture méritent incontestablement, et vous l'avez bien souligné, d'être explorées, exploitées et développées.